Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 8 de Battlegrounds, déjà votre podcast mensuel sur l'actu de l'e-sport. Ouais, déjà l'épisode 8, hein, le temps passe à une vitesse. Vous l'avez entendu, il est avec moi, c'est l'homme de l'émission, c'est Pierre.
Bonjour.
Ça va Pierre ?
Ça va très bien, merci.
De quoi tu vas nous parler ce mois-ci Pierre ?
De quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler déjà des IEM Katowice, mais ça on en parlera
ça, ouais,
probablement
on pas ensemble.
Voilà,
tous,
tous ensemble.
Ouais, c'est bien.
Bah oui, mais parce que je suis un mec comme ça, moi le début c'est has-been, c'est mal fait. Mais voilà, je vais vous parler de ça, je vais vous parler un peu de l'actualité du subtop français aussi, mm-hmm. qui est tout ce vivier de joueurs en dessous des deux grosses équipes que sont G2 et NVS.
D'accord.
Et des tournois à venir aussi, parce que même si sur la mars, il y a eu beaucoup de qualifs online, ce genre de choses, du coup, de avril jusqu'à fin juillet, on a quasiment des tournois toutes les semaines.
D'accord.
Donc, ça va être.
On peut se préparer à 20 minutes de
la fiesta
sur Counter-Strike, c'est ça. Comme d'habitude.
Exactement.
À ta droite, il y a notre sosie officiel de David Lafarge Brockeman. Bonjour, Théo.
On a dit
Link the Sun.
Aussi, oui.
Je pense
voilà.
Que lunettes,
un vrai compliment.
Merci, ouais.
Désolé, mon bro.
Ouais, je m'en vais, salut.
De quoi tu veux nous parler, Théo ?
D'un dérivé de l'Evo qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, ce mois-ci, du coup.
D'accord.
De Millennium. Et on fera une minute de silence pour un fournisseur qui nous a accompagnés pendant de nombreuses années.
D'accord.
En tant que joueur e-sport, on en reparlera.
D'accord, faire des minutes de silence en podcast, c'est toujours
exactement.
Une bonne idée.
Puis c'est facile à faire au montage, en plus.
Ouais, voilà, exactement. Et enfin, l'homme...
Tu connais le montage un peu, toi ?
Je connais le montage. L'homme qui, contre toute attente, est arrivé avant moi et est arrivé à l'heure aujourd'hui.
Je progresse.
Bravo Thomas.
Salut Antonin.
Notre chroniqueur League of Legends, de quoi tu veux nous parler ce mois-ci ?
Bah écoute, DLCS hein, qui suivent leur cours et dont les finales auront lieu là, les 22 et 23 avril prochains à Hambourg en Allemagne.
J'ai l'impression que tous les mois tu parles DLCS en fait.
Oui, bah, c'est un peu mon petit dada, tu vois. C'est les news faciles à suivre, c'est du League of Legends un petit peu voilà, qui se suit facilement.
Mainstream,
tu vas nous parler des Challenger Series aussi ? Et puis voilà, et puis j'aurai sans doute quelques news un petit peu plus business ou global comme toujours, comme j'aime à essayer de le faire à chaque épisode. Et je suis venu accompagner aujourd'hui.
Oui, voilà. Vas-y, introduis ton ami.
Merci de l'introduire. Et je suis venu avec un de mes amis qui s'appelle Dafuck, voilà, avec qui je travaille. J'ai la chance de travailler avec lui à Oura. Donc, on est une agence de publicité dédiée à l'e-sport.
Ouais,
et donc, c'est mon directeur artistique. Voilà, et donc je lui laisse dire un petit mot.
Bonjour à tous, merci pour l'invitation.
Bonjour.
J'irai pas jusqu'à dire que j'ai la chance de travailler avec Thomas, mais je travaille avec Thomas. mais voilà, j'espère que je vais être pertinent dans cette émission. Des experts.
J'en doute pas.
Hein, que ce soit sur CSGO ou LOL.
Je pense que t'es autant expert que nous. Mais toi, tu t'intéresses à quoi, du coup?
Je m'intéresse plus à Counter-Strike.
La peinture.
J'essaye d'être le Counter-Strike boy de l'agence, malgré les fans de LOL qui aiment ce jeu, un jeu un petit peu casu, mais à côté. Non, mais j'essaie de suivre ça. Je suis pas de manière aussi assidue que Pierre, le subtop français ou l'élite, parce que même il y a beaucoup de compétitions. Mais j'essaie de suivre au moins la scène française et les gros tournois, tout ce qui est gros tournois.
Bah, t'écoutes Battlegrounds tous les mois de toute façon pour
c'est ça, évidemment. J'étais le premier à écouter.
Early adopter.
Et à soutenir Thomas dans cette aventure incroyable.
Et Dieu sait qu'il a besoin de soutien.
C'est ça, important.
Et du coup, alors on va faire un petit tour de news. Comme
et toi,
d'habitude.
Tu vas nous parler de
quoi ? Oui, mais à chaque fois, j'oublie de me présenter maintenant. C'est ça, quand j'ai pas de notes, j'oublie de parler de moi.
Bravo, cet homme ne prépare pas ses émissions.
Exactement. Clap, clap, clap. Ouais, non, mais je suis inspiré par Thomas en ce moment, tu vois. J'ai un peu
c'est pour ça que tu es en retard.
Un peu à l'arrache. moi, Antonin, votre MC préféré, je vais vous parler de StarCraft. Tiens, ce mois-ci, ça va changer par rapport au mois dernier.
Ça faisait longtemps.
Ouais, ça faisait plus d'un mois. Avec notamment la petite surprise que nous a annoncé Blizzard à la finale de la GSL qui a eu lieu ce mois-ci. Et on va parler aussi du coup des IEM qui a été vraiment la compète hyper intéressante, même plus que la GSL à mon sens ce mois-ci. Oui. Parce que voilà, spoiler alert, on va se faire un petit dossier sur les IEM en fin d'émission.
Tan.
Un dossier. Carrément.
Un dossier, un gros dos. Vous êtes prêts les garçons ?
Ouais,
oui.
Et on est parti pour le tour d'horizon des news. Et Théo, tu as l'honneur de lancer le bal.
Absolument. Alors, on va commencer par une première news, disons-le.
Vas-y. On attend que ça. Hein. T'es là pour ça, c'est ton travail.
Si vous le voulez bien. Hein.
Vas-y,
si
vas-y,
pas.
Vas-y.
Tu peux rire, Pierre.
Non, mais moi, je propose de commencer par une deuxième news.
En fait. Vas-y, commence par la deuxième, parce que là, ça commence très mal.
Est-ce que je peux commencer par la fin, s'il vous plaît ? Bon alors, on s'y met. Donc je vais vous parler de l'Evo Japan.
Très bien.
Qui a été annoncé ce mois-ci. En fait, ce serait un dérivé de l'Evo. Donc, est-ce que je vais vous faire l'affront de vous répéter ce que c'est que l'Evo?
Bah,
à part le plus grand major de tous les temps en ce qui concerne les Fighting Games. Voilà.
En ce qui concerne les Fighting Games, en
et
petit.
Pas,
en
et non pas, et non pas le Versus Fighting.
Ah oui, ça.
C'est ce que je voulais rajouter.
Il faut toujours le préciser.
Il faut toujours
Azu,
le préciser.
Si voilà.
Donc, qui se tient à Las Vegas, normalement. L'Evo normal, je parle.
Ah oui, parce que j'allais dire l'Evo de Japan.
Non, l'Evo de Japan se tient au Japon.
Incroyable,
t'as vu. Hein.
Alors ça,
fini ou pas ?
Ça me scie les pattes.
Et donc, alors, ça fait un peu. Alors, à mon sens, ça fait un peu Evo du pauvre. Ce qui,
ah oui.
Ce qui s'avance un petit peu, puisque seulement 3 jeux en compétition.
Ah oui, par rapport à combien ?
Par rapport à une dizaine en compétition à l'Evo,
d'accord,
plus
donc,
quelques-uns qui sont en free play, tu vois.
Oui.
Qui sont ouverts aux joueurs, mais pas en compétition. Donc, ça fait un peu. Ouais, un peu pauvre, quoi. Et c'est assez étonnant au niveau des choix de jeux, parce que, bon, on dit que les Japonais sont très nationalistes.
Ouais.
Donc, du coup, pour l'instant, il n'y a que Tekken 7 et Guilty Gear Revelation.
Attends, il n'y a même pas de Street Fighter.
Attends.
C'est
ça la petite histoire.
Ah, je croyais que t'avais déjà fini, excuse-moi.
le mec veut faire sa chronique. Non,
mais je croyais que t'avais fini Ace des jeux, en fait.
Non, non, non. Alors, donc, deux jeux sur trois confirmés. Tekken 7 et Guilty Gear Revelation.
D'accord.
Et donc, Street Fighter V est déjà annoncé comme n'étant pas le troisième jeu.
Ah bon ?
Donc,
ah
ouais. Donc deux jeux japonais, tu vois, plus le Street Fighter qui est censé normalement être le jeu qui explose un peu tout au Japon. Honnêtement, c'est mal barré.
Ouais.
Leur Evo japonais sans Street Fighter, alors que c'est souvent le jeu qui est le plus joué avec Smash.
Ouais. Mais du coup, c'est quoi le troisième jeu ?
C'est pas annoncé encore pour l'instant.
Ah oui, on sait pas, d'accord.
Les gens ont demandé si c'était Street Fighter V, ils ont dit non, c'est sûr, c'est pas Street Fighter.
Ce sera peut-être le 4.
J'ai réfléchi, j'arrive pas à savoir. Ça sera certainement pas Mortal Kombat, c'est sûr.
Ou le 2, 2X ?
Peut-être, ouais, je sais pas. Moi je réfléchis peut-être les trucs un peu genre King of Fighters, peut-être j'y réfléchis.
Ouais,
mais c'est bizarre.
Même si c'est. Enfin, je veux dire, c'est. Non, ils ont
Street Fighter, c'est un peu le leader des.
Bah oui, des jeux japonais en plus. Parce qu'il apparemment, ils ont pas annoncé qu'ils prenaient que des jeux japonais, mais tu le comprends très bien, tu vois. Quand ils disent on prend 3 jeux et sur 3 jeux, il faut qu'ils soient japonais. Donc, Tekken 7, Guilty Gear. Mais donc, ouais, c'est un peu mal barré, tu vois. Si avec 3 jeux en plus, s'il y a même pas Street Fighter.
Mais du coup, ce sera quand même une compète au niveau mondial. C'est quand même
une compète qui porte le nom de l'Evo. Donc, il n'y a pas encore la valeur des cash prize, tout ça.
Mm.
Mais je pense que c'est quand même une compète qui veut se positionner en dérivé de l'Evo. Quoi.
Ouais, d'accord.
Donc, c'est quelque chose d'assez assez marquant.
Ça, mais avec des joueurs venus du monde entier, du coup.
Oui, clairement, oui. Et je précise que ça se tiendra en 2018. Hein. Du
d'accord,
26 au 28 janvier, donc il y a le temps de prévoir.
Donc ils ont le temps de trouver un troisième jeu.
Bah putain, ça va pas être dur.
Voir un quatrième.
Mais c'est... ouais, ils ont dit que 3 pour l'instant, mais je pense que, enfin, vu le torrent de merde qui se tape en disant.
Ouais, faudrait au moins qu'il.
Street 5 sera pas le troisième, je pense qu'ils vont devoir faire marche derrière parce que c'est pas possible.
C'est quoi la raison qu'ils ont invoquée pour justifier qu'il n'y ait que 3 jeux ?
Aucune. Ils ont fait un communiqué.
Pour le LOLs.
Ils ont fait un communiqué en fait qui est passé sur le site de l'Evo où ils expliquaient leur modalité, mais ils justifiaient pas. Ils disaient voilà, on aura 3 jeux. Les 2 premiers sont Tekken 7 et Guilty Gear. Et démerde-toi avec ça, quoi. C'est pas genre parce que. Mais je pense que c'est parce que ils se voient encore comme un demi-major en fait. Ils ont pas encore la puissance de l'Evo.
Oui, à Las Vegas.
La puissance qu'a l'Evo, donc ils sont encore un petit peu en dessous de ça. Donc je pense qu'ils veulent pas trop faire énorme.
D'accord.
Surtout que je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui peuvent se déplacer au Japon.
Oui,
clairement oui. Bah, il y en a,
plus,
mais
est-ce que plus mais Vegas, quoi. Enfin, est-ce qu'on monte à Vegas?
Oui, Vegas, c'est pas la même chose que le Japon, quoi. Donc c'est un peu l'histoire, mais
en
mais
même
du
temps,
coup,
t'as plein de joueurs japonais qui viennent aller au Vegas. Enfin,
ouais,
c'est pareil,
géographiquement, c'est comme beaucoup plus près que chez nous, par exemple.
Oui, c'est sûr. Voilà.
Mais du coup, ouais, en même temps, je me dis que s'ils mettent même pas Street Fighter, je pense pas qu'ils vont attirer grand monde. En soi, ils vont faire une partie de leur joueur.
Mais même en termes d'audience, parce que Street Fighter, c'est le jeu qui attire la foule pour les Fast Fighting.
Bah ouais, avec Smash, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que Smash et Street, c'est vraiment les deux jeux qui rassemblent, enfin les deux licences rassemblent plus que toutes les autres licences, hein. Mortal Kombat, Injustice, King of Fighters, tout ça, c'est ça passe à la trappe ou pas?
Ouais, bien sûr.
Comparé à Street voilà.
Guilty Gear,
et Guilty Gear ça marche bien au Japon, mais très peu en Occident, ouais. Donc
OK. Très bien.
Deuxième news, du coup, je vois que tu l'attendais,
la fameuse,
tu l'attendais
enfin.
À fond
avec
alors.
Impatience.
Alors, excusez-moi. Millennium qu'on connaît bien aussi, se lance sur Street Fighter V.
Cool,
enfin.
Ah bon, d'accord.
Voilà, grosse
poisson d'avril. Ah non.
Oui, c'est énorme,
ça pourrait. Mais, et donc, signe Will Tupac.
Ah oui,
premier joueur de
ça.
Leur. Tu l'avais vu, ça?
Bah oui, il a
oui,
le maillot.
Bah, oui. Bah, c'est pour ça, voilà. Mais donc, c'est vraiment officiel ce mois-ci. Donc, Will Tupac, hein, super joueur, connu pour sa Laura et sa grande présence en tournoi. sur tous les streets en général, hein, mais qui a vraiment explosé avec Street 4. Il a fait par exemple top 7 à la DreamHack Austin.
Je pas rien, voilà.
Moi, ouais, 7ème, ouais, ça passe. ça passe tranquille, voilà, aux États-Unis. Et donc, c'est assez intéressant comme phénomène parce que Millennium, enfin, vous savez combien de temps que Street est sorti ? Un an ? Ouais, un an après, se lance enfin sur.
Sur Street 5, ouais, bah, ils ont attendu, mais en même temps,
ils ont vachement attendu, ouais, parce que un an.
Là, ils ont eu un trou avec leur team S2 qui a disband là, il y a deux mois,
ils,
et du
ils
coup,
ont plus
ils
team
ont
S2, de
ouais,
ils ont plus team CSGO, ils ont plus de joueurs Stone, ils ont quand même de moins en moins de trucs chez Millennium.
Voilà, donc
c'est peut-être pour ça.
Je pense que Street, c'est un peu.
Bon, qu'est-ce qui reste ? Street.
Street, allez, voilà, ça plaît aux jeunes, allez, c'est parti.
Après, Will to Pack, bon, il est gentil comme tout, on le conçoit. Puis il est très bon, donc je pense qu'ils ont fait un bon pari, voilà. Donc.
Et du coup, il est tout seul pour.
Pour l'instant, il a annoncé. Enfin, ouais. il est pas tout seul, mais c'est le seul joueur qui a annoncé de leur équipe. Quoi.
Ok.
Donc on verra par la suite, mais bon, enfin, s'ils prennent leur temps comme ça.
Ouais. Bah, on leur souhaite quand même que ça marche.
Hein. Ouais, on leur souhaite tout le bonheur du monde.
Quand même.
Et donc alors.
qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas l'unanimité autour de la table, mais bon, c'est pas très grave.
De quoi ?
Non, mais le soutien par rapport à Millennium. Mais c'est...
Ah non, mais enfin, je soutiens pas Millennium. En soi, je soutiens pas Millennium. Mais quoi ? Mais
révélation.
Mais bon, moi, je trouve ça rigolo de se positionner sur Street.
Ouais,
après que toute la hype soit passée, parce que bon, on a déjà parlé, mais Street Fighter est en train de se ramasser la gueule totale.
Au
niveau des ventes. Voilà.
Et donc, je pense que s'il y avait vraiment un truc à saisir, c'était il y a un an, tu vois. Et pas un an après.
C'est un peu la marque de fabrique de Millennium, on a le sentiment global qu'ils sont un petit peu toujours en retard sur les décisions pour l'esport.
Oui,
c'est pas surprenant.
En soi, c'est vrai, ouais. Mais
attaque notre invité aujourd'hui.
Ouais, c'est bien, on a un aspect critique là aujourd'hui.
C'est la gauche contre la droite.
Ça change du caractère lisse de cette émission.
Oui, voilà,
bien sûr,
exactement.
Connu.
Un peu consensuel.
Voilà. C'est ça.
Non, mais enfin bon, j'ai rien contre Millennium en soi, mais ouais, je trouve le choix un peu bizarre, mais bon. Faut voir les joueurs qui vont rajouter
à ce pack.
Bon, après, c'était un bon choix. Bref, on passe. Et donc, la fameuse minute de silence.
Ah oui, alors pourquoi ?
Donc, bon, non, mais ça, c'est du.
Ah oui, oui.
Oui, t'as vu ?
Oui.
On apprend que Matt Katz nous a quittés. Hier soir, c'est annoncé que Matt Katz fait faillite.
Alors,
qu'est-ce que Matt Katz ? Bah, c'est un fabricant d'accessoires de type informatique, pour parler. Bien. donc clavier, souris, puis surtout sticker CAD.
Oui, bien sûr.
Donc voilà, qui nous a un peu accompagné. Enfin, quand t'es joueur PC comme quand t'es joueur console, mais
stick,
bon,
arcade, plutôt,
arcade quoi.
C'est ça. Voilà, les sticks. Enfin, je pense que les sticks Matt Katz ont beaucoup bercé quand même les joueurs. À partir des années 2000. Ouais.
J'avais moi-même une souris Matt Katz pendant un moment d'ailleurs.
Ah ouais.
Ouais, ouais.
À l'époque où t'étais PGM de Counter-Strike.
Ouais, tu rigoles. Depuis que j'ai changé de souris, je suis bien meilleur. Mais
ça faut pas le dire. Des infos un petit peu autour de
oui,
ça.
Oui, voilà. Alors,
le contexte. Ouais, plus de thunes.
Ouais, c'est
plus
ça. Thunes, c'est que, apparemment, ils ont fait un gros deal. Qu'est-ce que j'ai lu en fait, la news est tombée hier. Et donc, j'ai un peu lu vite fait, mais je me suis dit, putain, faut que j'en parle. C'est quand même.
En fait, c'est pas un poisson d'avril.
Non, c'est pas une blague.
Mais c'était hier. Donc,
on est le 1er avril. Alors, oui, on enregistre le 1er avril.
Voilà.
Ça fait deux fois qu'on en parle. Just so you know.
Un max de blagues dans cette émission.
En fait, ils ont fait un énorme emprunt de 45 millions de dollars pour le lancement de je sais plus quel jeu.
Oui, je sais plus lequel non plus.
Un truc, c'est le 4.
C'est pas
une série.
C'est pas Tekken. Non.
C'était pas Tekken. Non, bah non, Tekken 4, c'était beaucoup plus longtemps.
Non, je parle de Tekken 7.
Ah non, c'était un truc qui finissait en 4. Donc
c'était
beaucoup plus long que Tekken. Bref, ils ont fait un énorme emprunt de 45 millions il y a un an. Mmh. Et comme ils n'arrivent pas à le rembourser, bah du coup, ils se.
Bah, faillite quoi.
D'accord.
Donc,
c'est
un peu
malheureux,
triste,
ouais, c'est dommage.
Mais ouais, c'est un peu la news, un peu trivia, tu vois. Mais...
Et niveau e-sport, ils étaient quand même un gros sponsor par rapport
ouais,
aux.
Ouais, il y avait des tournois sur CS qui étaient sponsorisés par Matt Katz. Il y avait un truc qui s'appelait Matt Katz à Vienne en Autriche, Matt Katz Invitational.
Ça a duré combien de temps ?
Il y a eu 2-3 éditions, tu vois, mais en tout cas, c'est quand même un équipementier qu'on voyait pas mal dans le paysage.
Avec Razer.
C'est ça. C'est pas fait la même
c'est
taille
pas,
non
c'est
plus
pas la même cam mais bon ça reste quand même les deux premiers avec
c'est ça.
Plus Logitech
voilà dire que plus comme Logitech
donc voilà c'est quand même une page qui se tourne hein, depuis d'accord. 89 bon,
ouais.
Voilà.
Oui c'est ça 89. Ça existait depuis 89 quand même
c'était donc, avant okay.
Donc voilà minute de silence au montage
voilà, c'était un peu la news de la tristesse toi, aujourd'hui
parce que Millennium
parce que Matt Katz qui est mort
parce que l'Evo Japan qui sert à rien
parce que c'est clair
voilà.
Et bah, vous en faites passer à mieux.
J'apporte la joie et le bonheur dans vos chaumières.
Merci beaucoup.
Trop aimable.
Et bah Pierre, j'espère que toi, il y a plein de soleil dans ta news parce que
ouais.
Là, on en a besoin. Vas-y. C'était une transition, tu vois, c'était très cool, incroyable.
Ok, alors moi je vais vous parler de plein de trucs. Non, je vais vous parler de deux choses. Bon, rapidement du coup, pour les IEM Katowice, pourquoi c'était, enfin les IEM en fait de manière générale, pourquoi c'était intéressant?
On va en reparler après tout à l'heure.
C'est vrai qu'on va en reparler après tout à l'heure. Mais oui, mais je vous donne quand même le... Non, je vous donne pas le résultat, tout le monde s'en fout.
Non, on dira après. Après. Tu diras après.
Surprise. Alors, suspense, c'est une équipe qui a gagné.
Une équipe de Counter-Strike en plus.
Incroyable. Non mais ouais, en tout cas c'est intéressant. Par contre, pour parler des autres IEM, il y a un truc que moi je trouve pas mal, c'est qu'ils vont, ils ont lancé une étape des IEM à Sydney.
D'accord.
Qui est donc en Australie.
Ouais.
Et ce qui est super cool, c'est que parallèlement à ça, il y a une équipe australienne qui s'appelle Renegades. Alors je sais pas si la structure fait autre chose. Peut-être qu'ils ont une équipe LOL, ouais, c'est ça. Mais l'équipe CSGO, en fait, était du coup en Océanie depuis un petit moment. Et il y a 7-8 mois, juste avant le début de la saison de ESL Pro League, qui est l'équivalent de la Ligue 1 en gros sur CSGO, les Australiens ont pris la décision de déménager aux États-Unis pour jouer contre des équipes nord-américaines, augmenter, améliorer leur niveau, etc. Parce que le problème quand tu es la meilleure équipe d'Océanie, c'est qu'il y a tellement peu de compétition que quand tu te qualifies pour des tournois internationaux, tu te fais littéralement ramasser la tronche.
Ouais, bah
parce
oui.
que coup, voilà, il y a pas de
niveau et
il y a pas de level quoi. Il y a une équipe sud-africaine qui a exactement le même problème. Mm. En Afrique, ils roulent sur tout le monde, ils mettent des 16-0 à tout le monde, ils arrivent en tournoi international, ils se font péter.
Ouais, d'accord.
Voilà. Donc Renegades, ils ont pris la décision de partir aux États-Unis. Alors je me demande si d'ailleurs c'est pas une des structures qui a un partenariat avec une équipe de NBA.
Ouais, justement, ouais, c'est les LA Renegades sur LoL, Los Angeles Renegades, okay. Et c'est le parallèle avec une des teams de NBA.
Bah, ça va être les Clippers ou les Lakers, une des deux.
Ouais, je crois que bah, c'est une des teams où il y a Shaquille O'Neal justement.
Ouais, bah c'est les Lakers.
Ça doit être avec les Lakers derrière, ouais. De base. Voilà, mais donc ouais, non, en effet.
C'est ça. Et du coup, ça a dû largement aider. Et en tout cas, ils sont arrivés. En ESL Pro League, donc dans la saison régulière, etc. Et bah, c'est une excellente surprise parce qu'ils performent bien. Ils arrivent à tenir tête aux meilleures équipes nord-américaines sans problème.
D'accord.
Bon, alors pas face à SK qui sont incontestablement au-dessus. Les mecs, bah, ils ont fait 14 matchs, ils ont fait 14 victoires pour l'instant. Donc, ça va.
Ouais, ok.
Sans transpirer. Mais par exemple, il y a un tournoi qui est organisé par Starladder dont les finales ont lieu la semaine prochaine. Les mecs sont sortis de la qualification nord-américaine, pardon. Devant des Cloud9, devant des Counter Logic Gaming, devant des Liquid, okay, devant des mecs comme
stimulus.
Ça. Ouais, clairement.
Donc le déménagement leur a bien réussi.
Bah clairement. Et du coup, et tout ça pour revenir aux IEM à Sydney, moi je trouve ça hyper cool parce que du coup, ça a été une des premières équipes invitées, annoncées.
Ah, oui.
Du coup, ils reviennent à la maison, ils vont montrer qu'ils ont, qu'ils ont bien progressé. Il y a aussi d'autres équipes. Il y a SK qui est invité, Astralis. Bon, je me souviens plus exactement des autres. FaZe probablement. Qui vont aussi, donc il y a le gratin mondial qui se déplace également. Mais moi je trouve ça hyper cool d'avoir un tournoi dans une localité qu'on n'a pas l'habitude de voir pour l'instant sur CSGO.
Bien sûr, ouais.
Avec en plus une équipe locale qui va pas être forcément ridicule.
Ouais, voilà. Bien sûr.
Donc moi je trouve ça hyper sympa.
Ça va créer certainement une émulation dans cette partie du monde.
Il y a des chances, parce que des joueurs australiens par exemple, il y en a quelques-uns qui sont pas dans cette équipe Renegade, qui commencent à se montrer de plus en plus. Oui, dis-moi Mathieu.
Il y a pas une volonté de l'ESL de pousser un petit peu donc des compétitions un peu locales, parce que je crois qu'ils ont lancé une ligue du côté d'Australie justement, et alors, qui fait pas beaucoup d'audience parce qu'il y a peu d'équipes qui visaient, mais c'est peut-être un moyen de mettre en avant le fait qu'il y a quand même une ligue là-bas, etc.
De toute façon, le sur CS:GO, le plan de jeu, je pense, des ESL, c'est d'être présent un peu partout. Ils lancent des trucs en Asie aussi vachement, en Afrique pas encore parce que c'est encore
les infrastructures sont pas encore là.
Il y a ça, mais surtout paradoxalement, c'est le deuxième plus grand continent du monde et c'est là qu'il y a le moins de joueurs, quoi.
Ouais, bah oui.
Mais bon, c'est parce qu'effectivement, il y a d'autres raisons qui font que les gens peuvent pas tellement jouer. Mais en tout cas, ouais, ils ont clairement une volonté d'aller chercher justement des scènes un peu plus locales. Ce qui, moi, me ravit. Je trouve ça hyper cool d'avoir ça.
Ouais. Quand la même en Afrique? Tu fais un parallèle de situation.
Mais le truc, c'est qu'en Afrique, il y a l'Afrique du Sud, il y a un peu l'Afrique du Nord, il y a quelques joueurs tunisiens, algériens, marocains.
Tous les joueurs maghrébins, il y en a pas mal.
Ouais, mais le problème, c'est que pour l'instant, les joueurs maghrébins, ils ont pas de niveau, quoi. Enfin, il y a cette équipe d'Afrique du Sud qui se défend un peu et qu'on voit à droite à gauche. Il y a un joueur qui a réussi à s'extirper d'ici et qui va probablement aller jouer en Amérique du Nord très bientôt.
D'accord.
Black Poison, Mais à part lui, je veux dire, enfin, ils ont pas du tout le niveau encore individuellement. Mais parce qu'en même temps, ils ont pas besoin de s'entraîner pour rouler sur tout le monde localement. Donc c'est toujours un peu compliqué. Mais je trouve ça cool qu'une boîte comme l'ESL, qui est vraiment gigantesque, on se rend pas forcément compte, mais l'ESL c'est tentaculaire.
Oui, bien sûr.
Mettre en place ce genre de truc, ce genre d'initiative locale, quoi.
D'accord.
Voilà. Ce que je voulais dire à propos des IUM, du coup, paquet.
Et concernant le Subtop FR, alors.
Et concernant le Subtop FR, oui, voilà, ça va être mon deuxième point. Parce que c'est vrai que moi, je vous parle souvent du top mondial, des meilleures équipes du monde, etc., ce qui est très bien. Il y a toute une scène également qui est ce qu'on appelle le Subtop. C'est tout ce vivier de joueurs qui est juste en dessous, justement, des équipes top. Globalement, au-delà de la 15e équipe, il y a un classement qui est fait par HLTV, qui est le premier site d'information au monde sur CSGO. Il est assez, assez réaliste. Au-delà de la 15e place, on considère que c'est le Subtop, en gros.
Ouais.
Il y a plein d'équipes, genre Flipside, Hellraisers, LDLC, Rogue, Heroic. Quoique Heroic, c'est plus trop vrai, mais bon. Voilà, il y a un paquet d'équipes dans ce genre-là qui sont suffisamment fortes pour se démarquer de Jean-Michel du 38 qui joue à Counter-Strike deux fois par semaine, mais à qui il manque encore un peu soit d'expérience, soit de fond de jeu pour aller chercher régulièrement des top teams. Ça arrive qu'il y ait des exploits, mais pas tellement. Et en fait, en France, c'est une scène qui existe depuis les débuts de Counter-Strike, hein. Il y a toujours eu le haut du panier et beaucoup plus de joueurs en dessous qui se déplacent en LAN, etc. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que depuis quelques mois, là, depuis 5-6 mois, on constate tous, les acteurs, donc les joueurs, mais aussi voilà, les casteurs, les organisateurs de tournois, etc., que on est l'un des pays avec le Danemark et la Suède qui est vraiment le mieux fourni en termes de talent et pas seulement de joueurs bons in-game. En fait, ce qui est hyper plaisant, c'est que jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui se disaient « Bon, bah, si je me bute sur le jeu et que je clique des têtes plus vite que le mec, ça va suffire.
Ouais. »
Et en fait, non. Là, ils sont en train de se rendre compte, les jeunes qui arrivent, je pense à des... Alors, c'est des pseudos qui vont rien vous dire. Peut-être toi, Mathieu Mestou, mais des Iwo, des Devoduvec, des Delaney, des Amanek, des Hadji, des Lucky, des Créa, des mecs comme ça, qui sont non seulement très bons sur le jeu, mais qui, en plus de ça, sont intelligents. Alors, ça veut pas dire que les autres sont des gros cons, mais ça veut dire que les mecs ont compris que ça servait à rien de faire du deathmatch 15 heures par jour pour s'entraîner à cliquer la tête le plus vite possible. Et que ça, aujourd'hui, ça marche plus. Counter-Strike, c'est devenu, et même de l'aveu des joueurs pros, un jeu beaucoup plus complet. Il faut que tu sois bon.
Et du teamplay, quoi. C'est
ça. Mais avant, en fait, c'était beaucoup plus, les tâches étaient beaucoup plus réparties par joueur. C'est-à-dire qu'il y en a un qui était là vraiment juste pour ouvrir et coller des têtes. Il y en a un qui était là pour jeter le stuff. Il y en a un qui était là pour diriger tout ce petit monde. Maintenant, aujourd'hui, un bon joueur Counter-Strike, il faut qu'il sache parfaitement jeter des smokes et des flashs sur toutes les cartes. Il faut qu'il sache évidemment viser.
C'est quand même un prérequis logique.
Mais il faut qu'il puisse aussi, si son leader, ce qu'on appelle le leader in game, donc celui qui prend toutes les décisions, si celui-ci meurt avant ses coéquipiers, et ben il faut qu'un joueur dans une situation de 2v4 par exemple soit capable de lui-même prendre des décisions. Parce qu'évidemment, il n'y a que lui qui a les informations sonores, etc.
Ouais, bien sûr.
Et c'est, à une époque, c'était pas le cas du tout. Quand le leader mourait, les autres étaient un peu perdus et souvent le round était perdu. Là aujourd'hui, il faut qu'il soit complètement polyvalent et c'est hyper cool de voir que même dès le subtop, donc dès les strates un peu inférieures de la scène, bah les jeunes qui arrivent se rendent de plus en plus compte qu'il faut tout travailler en fait.
Polyvalent, ouais, d'accord.
C'est ça. Et je suis hyper ravi personnellement de voir qu'il y a plein de profils justement qui sont en train de se démarquer, et même au niveau européen, je veux dire, des jeunes comme ça, il n'y en a pas dans tous les pays, clairement.
Et ça, tu le vois comment, par le biais de stream,
je suis énormément les compétitions. Il y a plein de cups online, des petites cups online, tu vois, où il y a 10-15 000 $ de cash prize. Du coup, des G2, ils s'en foutent, ils vont pas y aller. C'est même pas ce qu'ils gagnent en un mois, donc ils en ont rien à foutre. Oui, parce que je sais pas si je vous l'avais dit au moment du shuffle, mais maintenant G2, c'est 25 000 $ par joueur par mois.
Ok.
Voilà.
Ça marche.
Serein.
Très bien.
Ils en profitent. Pardon.
Je vais mettre à CS aussi.
Oui, c'est ça.
On va tous mettre à CS.
Mais vous avez, je pense, 2-3 ans.
Ah ouais, vous devriez.
C'est ça. mais voilà, il y a plein de petites cups online organisées par des sites, des mecs de l'Europe de l'Est souvent. Qui permettent justement à tous ces joueurs subtop de se montrer. Il y a également des plateformes, il y a alors Faceit et ESEA. ESEA, c'est une société fille de ESL, enfin en tout cas ça a été racheté par ESL.
Une société fille.
Bref, c'est deux boîtes qui proposent en fait du matchmaking mais hors Valve, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre serveur, ils ont leur propre système de points, etc. Et ils ont en fait chacun une ligue qui s'appelle la Faceit Pro League pour Faceit et le Rankest pour ESEA.
Question.
Ou en fait, oui.
C'est légal ça
Complètement. Ah, ouais, bien sûr. Ah, oui, mais parce que nous, l'avantage sur CS par rapport à d'autres jeux, c'est beaucoup plus libre. C'est-à-dire que Valve fournit le SDK qui te permet d'installer ton serveur, de faire ce que tu veux dessus, d'installer les modes que tu veux, de développer.
Je me suis demandé sur le coup quand même. Parce que
non,
vu que Valve rigole pas trop avec la légalité.
Ah non, là, c'est non seulement complètement légal et surtout Faceit organise. Oui, enfin, encouragé, pas vraiment. Mais Faceit organise parmi les plus gros tournois du monde. Donc, je veux dire, il se serait fait taper sur les doigts avant, je pense.
Ouais, c'est sûr.
Mais en tout cas, ça marche très bien parce que, en fait, c'est des ligues où, si tu crames le jeu et que, du coup, tu gagnes des points, etc., tu gagnes de l'argent, en fait. En FPL, je sais plus combien gagne le premier, mais sur ESEA, si tu finis premier du ladder à la fin du mois, tu gagnes 5 000 $.
Ouais, d'accord.
Si tu finis deuxième, c'est 4 000, etc. Et après, c'est dégressif, évidemment. Ce qui est pas mal pour un joueur. Alors, les pros n'ont pas le temps d'y jouer, mais du coup, il y a plein de petits jeunes. Il y a un joueur qui s'appelle Robs, qui est estonien. Le gars a 17 ans. Il domine, mais clairement, le truc. Et tout le monde attend de voir dans quelle équipe il va être pris. Je veux dire, le gars, il vient de nulle part. Il a 17 ans, il est au lycée. Et le mec, il a gagné 5 000 $ en janvier parce qu'il est bon, tout simplement.
Ouais, parce que du coup, la suite logique, après, ça va être de revoir tout ce subtop dans des équipes. Et ça,
exactement.
Coup,
et c'est ça qui est vachement
bien. Ça va bientôt arriver
Le truc, c'est qu'en France, tu vois, moi, je vous parlais souvent de la dualité G2-NGS parce que c'était les deux grosses structures. Et derrière, bien loin derrière, il y avait LDLC et bien loin derrière encore, il y avait tout le reste. Mais aujourd'hui, cet écart, il se comble vachement.
Ah ouais.
LDLC, ils ont réussi à se qualifier pour l'ESL Pro League, donc la grosse ligue régulière dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et ils sont pas du tout ridicules dedans, ils font des bons résultats.
Même mieux que G2 dernièrement. Enfin, dernièrement, G2 s'est rattrapé.
Mais c'est ça, c'est parce que G2 jouait moins de matchs. Donc
LDLC, ils ont fait beaucoup de surprises.
Mais clairement, LDLC, ils sont. On s'attendait, mais je veux dire, c'est des promus, on n'espérait pas grand chose d'eux pour leur première saison. Bah, les gars, ils ont 5 victoires, 7 défaites, c'est pas mal quoi. Pour des mecs qui jouent contre des Virtus Pro, des Navi, etc.
Oui, d'accord.
L'écart se comble un petit peu. Alors, ils ont quelques surprises par ailleurs, mais voilà. Il y a également, je vous parlais de Devo Duvec, Amanek Hadji, qui sont un trio qui est parmi les meilleurs jeunes français. Ils sont en mix aujourd'hui, en ce moment en tout cas. Ils arrivent quand même à se qualifier pour des gros trucs. Je vous parlais des Cup Online à 15 000 $. Les mecs sont qualifiés, ce qui n'était pas le cas. Je veux dire, il y a 3 mois en France, on n'avait pas d'équipe capable de faire ça. Même d'accord. LDLC galère. Donc c'est cool de voir que le niveau global monte, puis derrière t'as des Vex, t'as des Wisix, t'as des gars comme ça, enfin des équipes comme ça qui sont clairement en train de monter et de montrer de très belles choses. Et du coup, effectivement, à terme, ces mecs-là, on va les revoir au top. Moi, j'en suis convaincu. Et puis, du coup, je suis hyper content en tant que français de voir qu'il y a plein de joueurs français qui sont en train de montrer que. CS, c'est pas juste je m'assois devant un PC, j'essaie de cliquer le plus vite possible quoi.
Je pense que c'était pas trop l'idée générale, non?
Il y a quelques années, c'était ça.
Du 13 évidemment,
mais en général.
Mais non, mais je pense qu'il y a quand même une certaine image de CS qui est quand même assez
pour les mecs qui sont déjà dans l'e-sport, oui.
Mais même pour
Mais non, enfin je veux dire moi quand j'ai expliqué ça à mes parents la première fois, ils m'ont dit le but c'est juste de tuer les mecs en face. C'est quand même un poil plus stratégique que ça quoi.
Non mais après c'est un extrême, c'est tes parents mais non mais c'est genre
tu sais qui sont extrêmes.
C'est le mauvais échantillon, tu vois. Oui, mais quand tu demandes à un mec qui a joué genre je sais pas 3 fois Counter-Strike, qui va dire putain, c'est vrai que ça a l'air un peu technique quand même.
Tu rigoles.
Ah moi je pense que si quand même.
Ah bah on rencontre pas les mêmes communautés en matchmaking alors.
Est-ce que ton papa il s'appelle Grand Crazy?
Non. Mon papa il joue pas tellement aux jeux vidéo. Il a joué au 9 Destin de Veldo en 97 quand on a acheté notre premier PC et c'est tout.
Je sais même. Et est-ce qu'il jouait à StarCraft Brood War ton père?
Eh ben non, pas du tout. Et moi non plus d'ailleurs. Mais je sens que t'as très envie de nous parler de Brood War.
Oui, il va bientôt pouvoir s'y mettre parce que Blizzard nous a annoncé ce mois-ci, juste avant la finale de la GSL, que Brood War, enfin le premier StarCraft donc, va être remaster en HD avec des jolis assets refaits en 3D, tout
quoi
beau, tout propre.
Et pas Warcraft 4.
Et pas Warcraft 4. Désolé.
Alors moi j'ai plein de questions par rapport à ça.
Alors,
je vais
parler un tout petit peu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que voilà, le gameplay normalement va être inchangé par rapport au tout premier.
Tu pourras toujours faire des équipes, enfin des groupes que de 16 mecs.
Apparemment, voilà.
C'est pack d'unités,
tu ça. Pourras faire que 16 groupes d'unités. Apparemment, les hotkeys ne pourront pas être rebind, donc il va falloir rejouer vraiment à l'ancienne. Alors pourquoi ça? Parce que en fait, la volonté de Blizzard, c'est de pouvoir merge les ladders, donc d'avoir les gens qui jouent sur le remaster et sur la version originale sur le même ladder. En fait.
D'accord.
Donc,
il y a encore des gens qui jouent à Brood War original.
Mais bien sûr. Enfin, en Corée du Sud, comme je disais la dernière fois, parce que
le dixième joueur dans les PC Bank
coréens, c'est le premier StarCraft. Parce qu'on en parlait du coup le mois dernier, on avait fait ce petit dossier sur le rétro e-sport, parce que ça avait une viabilité.
Et comme de fait.
Et bah, on avait eu le nez creux, hein, parce que effectivement, Blizzard a l'air d'y croire et a pris du temps et investi un peu d'argent pour remaster StarCraft Brood War. Et si je ne m'abuse, normalement, StarCraft Brood War, l'original, va passer gratuit totalement.
Donc, incroyable,
on va jouer à StarCraft Brood War gratos.
Parce qu'il coûtait encore 10 euros, c'est ça?
Connaissant Blizzard, ouais, il y avait des chances.
Moi, je me souviens que j'ai voulu racheter Warcraft 3 plus Frozen Throne. Il me demandait 40 euros pour un jeu qui est sorti il y a 15 ans.
Mais Diablo 2, tu le trouvais à la Fnac à 15 balles et tout.
C'est Blizzard, Activision, quoi.
Ouais, c'est un truc de ouf.
Activision Blizzard, attention.
Oui, voilà, c'est Activision Blizzard, voilà. Donc voilà, c'est plutôt cool de la part de Blizzard qui veut essayer de relancer un petit peu l'hype sur cette licence, quoi, et sur notamment sur ce jeu qui a fait. Dieu sait qu'ils en ont besoin. Ouais.
Comment tu le files, ça? Genre, comment ça va être pris par les anciens grands joueurs de StarCraft, par la scène pro plus ou moins, en fait? Genre, tous les. Je sais pas, je pense à Stefano parce que c'est un des seuls que je connais, mais tous ces anciens gros joueurs, ces gros noms, est-ce qu'eux, ça pourrait les tenter de revenir si Blizzard met en place tout un écosystème qui va être propice à développer encore un e-sport,
Flash,
des tournois autour de ça?
Bah franchement, j'en sais rien. En Corée, c'est sûr que c'est
il y aura des spectateurs.
90% que c'est que ouais, parce que on l'avait vu là au début de l'année, il y avait l'ASL qui est du coup le tournoi dédié à Brood War qui avait eu son petit succès avant pour l'annonce du remaster. Ils ont fait des show match avec les grands ceux qu'on appelait les banjois à l'époque, c'est donc la team des quatre plus grands joueurs de Brood War. Et du coup, bah ouais, je pense qu'il y a moyen que ça recrée un petit engouement populaire autour du jeu, le fait qu'il soit reskiné un petit peu sympa, qu'il y ait un nouveau support vraiment du ladder. Je pense que ça peut relancer un petit engouement. Après, c'est surtout la Corée, je pense, qui est visée. À l'occidental, on verra ce que ça donne.
Ouais, parce que ça attirera pas de nouveaux joueurs, hein, vu le gameplay archaïque, ça veut dire.
Voilà, je sais pas. Alors, c'est peut-être plus pour l'aspect nostalgique, faire revenir d'anciens joueurs, effectivement, plus que de créer des nouveaux joueurs.
Alors, okay. Comment comment ça se passe au niveau des serveurs?
Précise ta question. Alors, un serveur est une machine.
Comment est-ce qu'il gère le multi?
Oui, bah le but.
Est-ce qu'ils vont rouvrir des serveurs pour...
Ah non, mais il y en a toujours des serveurs de Brood War.
Ouais, mais vu que c'est pas le même jeu, est-ce qu'ils vont fermer ceux de Brood War original et pas en ouvrir des nouveaux qui sont
Non, je pense que ça va être les mêmes, parce que du coup le but, c'est vraiment que les jeux qui ont l'original puissent jouer avec les gens qui ont le remaster.
D'accord.
Voilà, c'est ça l'objectif. Donc je pense que non, ça va, ils vont continuer, ils vont peut-être en ouvrir des nouveaux, mais
il y aura zéro avantage par rapport au fait que les gens jouent sur l'original, même en termes de compréhension du gameplay, si c'est plus clair, si c'est remasterisé,
etc. Ça va être une question qui va se poser, et du coup c'est pour ça que je pense qu'ils ont vraiment pas voulu toucher aux bases du gameplay de l'original en faisant le remaster, c'est que pour qu'il y ait vraiment une égalité entre les joueurs, quoi.
Après, mais à mon avis, les mecs qui jouent toujours à l'original, c'est des gars qui jouent depuis 15 ans, donc à mon avis, si tu leur changes leur UI, ils vont pleurer.
C'est eux qui vont être avantagés, je pense, par rapport au fait que ça fait 20 ans qu'ils y jouent.
Au début, en tout cas.
Et du coup, si ça joue sur le côté nostalgique pour faire revenir des joueurs, pourquoi les personnes ne retourneraient pas sur le jeu original? Est-ce qu'une version juste remasterisée, ça va les faire revenir?
Bonne question, écoute.
Est-ce qu'il n'aurait pas juste suffi développer un système de, comme tu disais, de remettre en avant un petit peu un ladder, etc.?
Ouais, mais ils jouent pas mal aussi sur le remaster de la campagne solo. Ils invitent pas mal les joueurs à dire « Ah, vous avez vu l'histoire que vous avez kiffé dans StarCraft 2, vous allez voir les origines, pourquoi Kerrigan est devenu Zerg et ce genre de trucs. » Donc ils ont vraiment aussi l'espoir de ramener des nouveaux joueurs, je pense. Enfin voilà, en tout cas je trouvais ça une petite info sympa pour ce mois de
très casual,
ce mois de mars.
Voilà, pour ce mois de mars, et sachant que du coup ça a été annoncé juste avant la finale de la GSL qui a vu s'imposer Stats, mais ça on en reparlera un peu plus tard.
D'accord.
Thomas, es-tu prêt?
Toujours prêt.
De quoi tu vas nous parler alors?
Écoutez, de quelques petits résultats des LCSEU, Spring Split qui touche à leur fin, donc le split de printemps, n'est-ce pas, le premier de l'année. qui sera suivi du Summer Split. Donc là, alors on enregistre aujourd'hui même, nous sommes le 1er avril, donc on arrive enfin sur les round robin entre les groupes.
Les round robin.
Les round robin.
Ok.
C'est les rondes robin. Ils appellent
les fameux.
Dans la langue
de Molière.
De Shakespeare, bah non.
Bah non, c'est pas ça.
Merde. De Christine Bravo.
J'ai cherché Molière, Christine Shakespeare, Bravo, lequel. Anyway, Molière, ouais. Donc voilà, c'est pas mal, c'est que donc les classements sont quasiment déterminés pour les groupes A et B, parce qu'il y avait donc deux groupes hein, sur les LCS comme toujours, et donc là les matchs vont bientôt commencer pendant le courant du mois entre les groupes, enfin, donc les BO3 entre les deux, chacun des groupes. Dans les deux groupes, il y a quand même des tendances qui sont enfin dessinées, on sait qui seront les finalistes à peu de choses près, parce que t'as G2 dans le groupe A qui est en 12-0.
Toujours
en
vaincu, comme la saison dernière.
Exactement, G2 c'est des monstres.
Comme la saison dernière.
Comme la saison dernière, si je ne m'abuse. Ouais, c'était les premiers du LDLC.
En poule, ils avaient fini invaincus, je me souviens de ça.
Donc G2, les rois du monde. Et on peut comparer avec l'équipe sœur de G2, Origen, un petit peu. Entre Carlos et Peke, tu vois, on peut se dire. Voilà, les deux team owners. Qui est donc Origen, ils sont au bout du bout. Ils étaient au Worlds il y a 2 ans pour représenter l'Europe. Et là, ils sont 0-13 sur leur split. L'exact opposé de G2, c'est une catastrophe.
Mais comment ça se fait
je sais pas, ils ont fait plusieurs changements de team. Peke est revenu dans la team, puis ressorti le boss qui l'a créé. Ouais.
Faut backdoor.
Exactement, celui-là même, le fameux backdoorer. Mais bon, je sais pas, ils ont pas suivi peut-être les évolutions de méta, ils ont pas de coordination de team qui soit vraiment. Puis je pense qu'ils s'y croient même plus, les mecs, quoi, quand t'es en 0-13. Franchement, même nous à l'agence, quand on regarde les matchs en live, on se dit, mais les gars, quoi.
Arrêtez le bassin,
les mecs se sont dit, genre, on est tellement au fond qu'on va donner des points aux autres, aux équipes de Vitalo, genre Splice, Vitalis,
match arrangé, match fixing.
Voilà, mais donc
c'est ça.
Au 8-18-18.
Et donc les 4 teams qui ressortent, donc là sur le classement européen, c'est donc G2 et Misfits pour le groupe A, Misfits qui sont très bons aussi, et d'ailleurs la Misfits Academy qui est leur école, enfin leur team en Challenger Series, performe aussi pas mal.
D'accord.
En gros, les deux gros performeurs des Challenger en EU là sur ces splits là, c'est le FC Schalk qui était donc redescendu de LCS la saison dernière, mais qui devrait remonter FISA, et la Misfits Academy qui sont vraiment bons, là où Fnatic Academy, l'équipe sœur de Fnatic, est elle un peu plus en demi-teinte. Ils ont fait de beaux matchs, ils ont notamment battu Paris 3-2, ils ont anéanti les chances de Paris de faire un switch là sur cette première partie de split, donc on verra si au Summer Split ils font mieux les challengers. Mais voilà, donc en tout cas l'actu LOL suit son cours, et j'aurai la chance.
J'y ai pensé aussi, très fort, j'ai failli la faire.
Il n'y a pas de team suisse d'ailleurs, et j'aurai la chance en plus d'être, on aura la chance d'être, enfin, même si Mathieu est si intéressant, peu
joueur
moins,
dans les équipes.
Au final dans 3 semaines
à Cologne,
à Hambourg, au Parc Les Card Center, en tant que spectateur fan.
En tant que
fan le plus sauvage, est-ce qu'on peut le dire?
Oui, d'accord.
Voilà, mais donc j'aurai la chance d'aller voir. Donc sans doute, on verra sans doute un G2. Je sais pas, je verrai bien G2 UOL sans doute. C'est ce qu'il y a de
Les
sens,
Unicorns hein, of Love.
Ouais, les UOL qui performent quand même bien.
Malgré leur nom.
Pas Romain Bijard. Non, mais c'est cool qu'une team aussi un petit peu underground et internet-like réussisse à performer autant, tu vois. Et puis bon.
Un petit Unicorn of Love en termes d'ambiance, etc. Ouais. Ça peut être intéressant.
Mais parce qu'ils sont quoi? Ils sont français?
Non, du tout, mais il y a une ambiance, une hype autour d'eux qui est assez inexpliquée. Peut-être qu'elle est expliquée par rapport à leur identité.
Et leur manager, Romain Bijard, le mec que tu vois sur toutes les photos torse nu avec sa musculature imposante et ses magnifiques cheveux roses, est français. Il vient de Rouen, tu
vois? Mais les joueurs, ils sont pas français.
Mais les joueurs, par contre, non, ne le sont pas. Ne le sont pas. Et
bon joueur français de
on a eu des légendes. On a eu Sos qui est toujours chez Fnatic, mais qui contre-performe un peu maintenant.
Ouais,
on a eu
Yellowstar
qui est devenu maintenant, qui est dans le management.
Mais là, aujourd'hui, il y en a plus.
Aujourd'hui, il y a Ansamar, exactement.
Chez Misfits, la deuxième team du groupe A.
D'accord.
Pardon.
Galère de micro.
Et donc et qui est un mec vraiment, enfin qui a toute la France derrière lui, c'est un carriadé en plus, donc.
D'accord. Toute la France carrément. Non, donc 66 millions de personnes derrière lui.
Ouais, exactement.
Ça fait
bientôt 68.
Ça fait beaucoup. Grosse team.
Et donc,
tu vas faire les courses,
moi là au législatif, perso, je vais voter Ansama. Voilà, dans l'urne. Non, mais voilà, donc un petit tour d'horizon des LCS EU pour le coup. Les LCS NA suivent leur cours, ils sont toujours aussi chiantes. CLG, TSM et Cloud9, toujours les trois mêmes teams.
De toute façon.
Et qui de toute façon ont. Franchement, non, mais vraiment, on regarde la LCK aussi beaucoup. La LCK, c'est vraiment intéressant. T'as SKT, Kati et Samsung qui sont vraiment sur le trio tête. SKT qui ont perdu donc, les triples champions du monde en titre, qui ont perdu quand même 3 ou 4 games en tout sur le split. 3 games en tout, je crois. 3 BO. Voilà.
peuvent saigner.
Donc, non, mais les SK Team qui peuvent saigner et Samsung qui sont en numéro 2 en ce moment, là, en ce 1er avril. Samsung qui sont deuxième et qui sont. Qu'on les crocs. Mm-hmm. Ils en veulent, la Samsung cette année. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein, t'as eu Samsung et trois fois SK Team ces 4 dernières années. En champion du monde. Donc, ça en dit quand même long.
Bah,
et
depuis que les Worlds sont ouverts aux Coréens, en fait.
Bah, ouais, on aurait dû faire des Worlds reste du monde et des Worlds Corée.
C'est ça.
Comme à StarCraft 2.
Ils ont un intra-world, en fait.
Et faire une finale mondiale. Mais juste pour le LoL, comme la Coupe du Monde des clubs de
au foot. Une mise à mort.
Ça s'appelle et StarCraft 2, hein, les enfants.
Nuance,
c'est comme ça que ça se passe depuis
franchement, quand tu vois du level Challenger. Bon, je regarde pas les Challenger NA, donc je peux pas en parler, mais Challenger EU, putain, des fois, c'est vraiment triste. Les moves que tu vois, ouais, c'est limite, c'est du ladder.
C'est
gold,
du gold
platine,
3, quoi.
Exactement, gold, platine, ladder. Enfin, je ne juge pas, parce que moi-même, je n'ai pas du tout ce niveau. Mais putain, c'est. Et quand tu vois à côté une game de LCK.
Ouais, tu pleures. Ouais.
Un putain de monde entre la Ligue 2 Pro et la Ligue 1. Enfin, c'est vraiment des bébés qui jouent contre des joueurs pro, quoi. Et donc, ça sous-entend quand même que cette année, je pense que malheureusement, la domination coréenne
ne
changera vraiment pas. Ouais. Parce que puis derrière, t'as Katie Rolster. Donc, le SKT Katie, c'est leur classico côté en Corée. Et Katie Rolster qui sont quand même très très chauds, qui ont pris des games à SKT. Donc, t'as vraiment un top 3 coréen cette année qui a les crocs qu'on veut et qui sont bons, quoi.
D'accord.
Et même côté aussi, donc les wildcards, donc c'est ces régions un petit peu out. Donc, par exemple, les Flash Wolf, spoiler alert pour le
c'est
petit
chinois,
boss, mais c'est Flash Wolf, non,
c'est
Taïwan et autres, si je dis pas de bêtises. Enfin, tu sais, tout plein, un regroupement de, de pays un petit peu d'Asie du Sud,
Est.
Sud-Est, voilà, merci. Et qui ont remporté les IUM, spoiler de Katowice.
Incroyable.
Voilà, mais donc,
il en parle avant le dossier.
Voilà. Je suis permis, moi. Voilà. Mais donc, il y a quand même aussi des wildcards qui montent. La Chine, qu'on attend depuis 2-3 ans, qui monte chaque année en niveau et puis qui recrute aussi, qui ont de plus en plus d'argent. D'ailleurs, les Worlds se dérouleront en Chine cette année. Ah, vous ne saviez pas, de League of Legends.
Où ça?
Oula, je ne sais pas, c'est très grand la Chine. Je ne saurais pas te. L'année dernière, c'était des Worlds en Europe, non?
Mais il n'y en a pas eu en Allemagne ?
Non, je sais
pas. Je sais qu'il y en a eu au moins une finale à Paris.
Ah, tu me fous le doute. Non, tu me fous le doute. Je ne saurais pas dire où étaient les Worlds la dernière.
Non, je le demanderai parce que.
J'ai oublié. C'était pas aux States, justement.
Ah bon ?
Moi, c'est ce que. Je
sais pas, c'est toi le spécialiste de l'OM.
J'ai dormi depuis. Non, mais les Worlds 2015, c'était en Europe, en tout cas, avec les phases de qualif en France et les autres phases qui s'étaient terminées en Espagne et aux Pays-Bas, si je ne m'abuse. Ou Royaume-Uni. Enfin, voilà, plus là-haut. Mais en 2015, c'était en Europe, quoi. Et 2016, je ne sais plus. 2017, ce sera en Chine.
Très bien.
Voilà pour les petites news imparfaites de League of Legends.
Je vois que vous avez tous très hâte de parler des IEM, surtout toi,
oui,
Théo.
Surtout moi,
parce que t'es hyper chaud. Et du coup, on va passer tout de suite au dossier. Ce mois-ci, on vous parle du coup des IEM qui ont eu lieu à Katowice entre le 25 février et le 5 mars. Pierre, vas-y, c'est à toi.
C'était très formel.
Merci.
Non, mais... Alors, je crois que c'était les dates sur LoL, non?
Parce c'était
que
les dates globales.
Ah, les dates globales.
Entre,
LoL, c'est LoL et... CSGO avait fini la semaine d'après.
Entre le tout premier.
Mais en fait, les IEM, donc, pour vous présenter rapidement ce que c'est un tournoi qui est donc organisé par l'ESL et financé par Intel, la boîte d'informatique. C'est pour ça que ça s'appelle les Intel Extreme Masters. Ça fait un petit moment que ça existe, quand même.
Je crois que c'était les Intel MatCads Masters et donc ils ont perdu 50% du.
Non, mais ça, c'est au moins la 12 ou 13e édition, effectivement, ça va faire une petite dizaine d'années que ça existe.
Ouais.
Donc c'est quand même plutôt une institution.
C'était la
11e. Ok, d'accord, t'es sûr ? Ok, d'accord.
Okay, c'est Google qui me l'a dit. Alors
Google doit avoir raison. Non mais voilà, donc c'est des gros rassemblements multijeux. Alors c'est surtout du LoL et du CS:GO.
Ouais.
Visiblement, il y a du StarCraft aussi cette année.
Et c'était bien.
Et
il y a zéro jeu de versus.
Et il y a genre jeu de versus. Mais
donc,
oui, parce que
Équivomère quoi.
On a parlé d'un gros rassemblement. Non, je rigole. Bah oui, mais parce qu'en même temps, il faut.
Il y aurait eu Smash, il y aurait eu un gros rassemblement.
Ouais, mais c'est clair. Bah ça viendra peut-être dans le futur. Hein. C'est pareil. Au début, ça avait commencé que sur CS ces trucs-là. Après, quand LoL est arrivé, ils l'ont intégré. Ils ont fait du StarCraft, alors je sais pas s'ils l'ont.
Après,
s'ils ont
Intel,
toujours fait
tu vois, c'est une culture un peu PC. Du
oui,
coup, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a
pas
ça,
de
fighting game.
Mais en tout cas, voilà, il y a eu d'abord un tournoi LoL, ensuite un tournoi CS. Et alors, par contre, les finales, la partie StarCraft, je sais pas quand elle avait lieu.
Bah, au début, enfin, il y a eu une grosse partie parce qu'il y a eu pas mal de qualifiers qui ont été faits sur place et du coup, bah, c'était tout début du mois de mars.
D'accord, ok.
Enfin, jusqu'au du 3 au 5, je crois, c'était ça.
D'accord, donc en parallèle au final CS. Okay. Ouais. Je sais que j'ai pas trop suivi. Bah, du coup, moi, je vais pouvoir vous parler de CS. Simplement, bah, alors, sur CS, il y avait du coup 8 équipes et alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets. Parce que. On a beaucoup de tournois qui ont aujourd'hui 16, voire 32 équipes, ce qui fait que t'as souvent, tu te retrouves souvent avec des équipes punching ball qui sont là pour se prendre 2-16-0 dans la tronche à partir chez eux. Là, l'avantage d'avoir que 8 équipes, c'est que tu avais vraiment les meilleurs des meilleurs des meilleurs. À tel point qu'on n'avait même pas G2, on n'avait même pas NVIDIA.
Ah oui, à ce moment-là.
Non, c'était vraiment les meilleures équipes du moment, de manière quasi certaine. Alors, il y avait Immortals qui sont des Brésiliens. On s'est demandé un petit peu ce qu'ils faisaient là, mais en termes de résultats, ils ont quand même.
Ils sont bien sortis aussi.
Ils sont bien sortis. Parce que du coup, pour vous donner une idée, les gagnants sont Astralis, les Danois, qui décidément roulent sur l'eau depuis qu'ils ont réussi à. Enfin, marchent sur l'eau plutôt. Parce que
ils roulent sur l'eau, oui. Ils roulent sur les autres.
C'est ça, ils roulent sur les autres et ils marchent sur l'eau.
Ça leur a servi de preuve comme quoi ils méritaient vraiment leur titre.
Mais c'est
ça. Ils l'ont dit dès qu'ils ont eu le trophée, ils ont demandé qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant. On s'affirme. Danoise, on est là. Et...
C'est ça, parce que le Astralis, je vous en parlais déjà, je sais plus trop quand, mais en gros, ils ont connu une année 2016 compliquée où ils faisaient tout le temps demi-finale ou finale, mais ils gagnaient jamais. Et à partir du moment où ils ont gagné un titre en novembre, je crois que c'était l'E-League saison 2, ouais, c'est ça. Ils ont fait ça, ils ont fait les ECS saison 2, ils ont fait les IEM, ils ont fait les trois derniers gros rendez-vous, c'était pour eux.
D'accord.
Et ils ont fait le Major aussi. Non, ils ont peut-être pas fait les ECS, mais ils ont fait le Major. Enfin bref, les trois des quatre derniers gros tournois sont dans leur poche. Donc ils sont en train de vraiment asseoir un petit peu leur domination. Ils perfent bien online aussi. Enfin, je veux dire, c'est plutôt rassurant pour eux. Et là où c'est beaucoup plus surprenant, par contre, c'est les équipes qui les ont accompagnés sur le podium. Il y a FaZe qui se retrouve en finale face à eux. Alors FaZe, pourquoi c'est une surprise? Parce qu'il y a des équipes très régulières, type Navi, type SK, type VP, qu'on attendait à ce stade-là du tournoi.
Surtout VP, puisqu'ils étaient chez eux.
Et VP, en plus, c'était à domicile, parce que Virtus Pro, c'est donc des Polonais, ça fait 3 ans et demi que. Enfin, je veux dire, c'est des légendes. Neo, Taz, Pacha, c'est juste des grosses, grosses légendes de malade mental. Ils étaient à domicile, donc à Katowice, on attendait beaucoup. Ils sont sortis de la phase de poule. Alors que FaZe, à contrario, c'est plutôt une équipe, on sait qu'ils sont capables d'aller chercher des demi-finales, d'aller se placer. Mais on les attendait pas vraiment pour une éventuelle victoire finale. Et le truc, c'est que ils ont montré que fallait compter sur eux également. Et ils ont pas vraiment fait douter Astralis. C'était un BO5 et Astralis a remporté 3-1. Donc bon, ça s'est quand même plutôt bien passé pour les Danois. C'était pas ultra serré. Mais voilà, ils ont montré qu'il y a du potentiel depuis qu'ils ont récupéré Karrigan, depuis qu'ils ont récupéré surtout la star bosniaque Nico, le mec qui a 19 ans. Alors, je sais plus si c'est bosniaque ou bosnien.
Ouais.
Ok, bosnien alors. La star bosnienne Nico, ça promet vraiment du lourd. Et l'autre.
J'ai vu de reprocéter soit Scream, soit Nico.
Et, ouais, c'est ça. Bah,
et
alors,
le choix de Scream, de Nico, en définitive.
Bah, il est juste complètement cohérent, quoi. Clairement. C'est un gars qui était chez Muzi Sports, qui était une équipe allemande. Il avait rien à faire là. Enfin, il avait 10 fois le niveau de ses coéquipiers.
Ah oui, d'accord.
Et donc maintenant qu'il est avec des mecs qui ont un niveau plus semblable au sien, il est en train d'exploser. Mais c'est un truc de malade, quoi.
Ouais, il est porté.
Ouais, on en entendra beaucoup parler en 2017. Bref, et surtout l'autre truc hyper intéressant, c'est qu'en demi-finale, encore une fois, ni VP, ni SK, ni Navi, ni des mecs comme ça, ni NIP, on a eu Heroic et Immortals. Alors Immortals, c'est les Brésiliens dont je vous parlais tout à l'heure.
Ouais.
C'est la deuxième équipe brésilienne derrière SK Gaming. Et je veux dire, ouais, ils sont pas mal, mais personne les attendait à ce niveau-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le format est un peu particulier. Il y avait deux poules de 4 pour les 8 équipes. Et c'était pas une ronde suisse.
Deux formats suisses, ouais.
Ouais, c'est ça.
C'était beaucoup décrié, mais en même temps, beaucoup de gens ont trouvé ça vraiment.
Non, pardon, c'était deux poules de 6. Excusez-moi, donc il y avait 12 équipes.
D'accord.
Il y avait 12 équipes. C'était deux poules de 6, et voilà, c'était une ronde suisse. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, en gros, c'est tout le monde. Enfin, t'as un premier tour où t'affrontes un adversaire, et en fait, à partir du moment où tu perds 3 fois, où tu perds 3 matchs, tu dégages de la compétition, et si t'en gagnes 3, t'es qualifié.
Ouais.
Et en fait, tu fais ton premier match, et ceux qui ont perdu, donc ceux qui sont à 0-1, s'affrontent entre eux, ceux qui sont à 1-0 s'affrontent entre eux, etc. Ouais, ouais. Ensuite, ceux qui sont à 1-1 et ceux qui sont à 0-2, etc., etc. Jusqu'à ce que t'aies 4 qualifiés et les autres éliminés. D'ailleurs, là, du coup, c'était un peu particulier, vu qu'il y avait du coup 12 équipes. En fait, t'as eu des quarts de finale, mais il y a eu que 2 quarts de finale, parce que les premiers de chaque groupe accédaient directement en demi-finale. Et c'est ça qui a été très surprenant.
C'est
voilà. Et c'est ça qui a été hyper surprenant, c'est que Heroic et Immortals ont terminé toutes les deux premières de leur groupe. Ce qui fait qu'elles ont accédé directement aux demi-finales. Alors qu'on les attendait pas là. Je veux dire, dans une compétition où t'as Astralis, FaZe, SK, Navi, Virtus Pro, NIP, et j'ai oublié qui étaient les autres, je crois qu'il y avait Cloud9, il y avait, enfin bref, des équipes un peu moins fortes, mais quand t'as ces six noms-là, tu t'attends pas à ce que ce soit Heroic ou Immortals. Et ça avait déjà créé une bonne surprise. Bon, après, en demi-finale, ils se sont fait rouler dessus. Mais ce qui fait que forcément, bah, y a des favoris qui sont tombés dès la phase de groupe, dès les quarts de finale. Et du coup, c'était à la fois surprenant, mais à la fois hyper intéressant de voir ça, quoi.
D'accord, ok.
Voilà ce qui s'est passé pour CSGO.
D'accord, bah, très bien.
On enchaîne... merci pour ces news.
Merci, ouais. Merci. On enchaîne du coup bah, sur ce qui s'est passé du côté de StarCraft 2.
Allez.
Alors, il y a eu un peu un schéma un peu similaire avec des grosses surprises de gens qui se sont qualifiés directement en quart de finale. Parce que nous, du coup, on ne se qualifiait pas directement en demi on sortait premier de poule. Mais je dis on comme si j'avais participé, mais pas du tout.
Quoi ?
Antonin, tu y étais pas ?
Et non, malheureusement. Parce que, bah tiens, je vais parler de ça justement, c'est que la France n'a pas particulièrement brillé pendant ces IEM.
En même temps, on commence à avoir un vivier qui se dépeuple.
Voilà, c'est-à-dire que là, on avait quand même le nouveau top FR qui vient directement du sub-top, mais qui n'a pas encore eu le temps de vraiment, vraiment faire ses preuves.
C'est le meilleur joueur français par défaut, quoi.
Voilà, exactement. Mais même Petit Drogo n'a même pas passé les qualifiers.
Ah, Petit Drogo, on connaît bien maintenant Petit Drogo.
et du coup, bah, dans les playoffs, on avait surtout du coréen.
Incroyable!
Grande surprise.
Ça me scie les pattes.
Deux foreigners, Nercio, qu'on commence à connaître, et Serral.
Nercio, il n'est pas polonais en plus?
Si, il est polonais, Nercio.
Donc c'était à domicile aussi.
C'était à domicile, ouais. Okay. Mais bon, voilà, je veux dire, tout. Nercio, si c'est pas en Corée, il est quand même à domicile, quoi. C'est mec qui est tellement incontestable sur la scène foreigner que.
Okay.
Il est assez énorme. Mais...
C'est marrant parce que c'est comme Virtus Pro qui sont aussi polonais.
Ah ouais?
C'est exactement pareil. Les mecs ont des fans partout, quoi.
Et bah du coup, ce qui était intéressant, c'est que Nercio, lui, n'a pas réussi à sortir premier de sa poule.
D'accord.
Et il était dans la même poule que l'autre foreigner, qui est Serral, qui est un Serral, pas céréal, Serral, qui est un jeune joueur finlandais qui doit avoir 18 ans maintenant.
Ah nice.
Et qui avait déjà impressionné pas mal lors des Nation Wars 3. Donc pas celle de cette année, celle de l'année d'avant, où il avait quasiment all-kill la Corée tout seul, à l'âge de 17 ans.
Propre.
Enfin, il avait vraiment tenu tête à la Corée, il avait été vraiment, vraiment super impressionnant sur son jeu, et c'est le mec, tu sentais, en fait c'était déjà la sortie, ça venait d'être la sortie de Legacy of the Void, ça venait de sortir, et le mec s'y était complètement adapté. Il jouait vraiment le jeu, le nouveau gameplay que voulait imposer Blizzard. Lui, il a vraiment pris en main, quoi. Et ça s'est ressenti encore aujourd'hui. On a un joueur comme Nercio qui, en fait, il joue Zerg tous les deux.
D'accord.
Et Nercio, lui, c'est vraiment, il va faire durer ses games, même contre des protos. Il va partir sur du late game, des games qui vont durer 20-25 minutes et faire des grosses armées, des grosses pop énormes et faire des grosses batailles de position qui vont durer longtemps. Et ça, c'est vraiment à l'inverse de la philosophie de Legacy of the Void qui prenait plutôt les petites escarmouches, les petites infiltrations. Et ça, c'est ce que Serral fait très bien. Il est très Zergling Rush, il envoie toujours des petites escouades de Zergling pour te péter ta ligne de minerai pendant qu'il t'engage ailleurs et tout. C'est vraiment du gauche-droite tout le temps, et il a un jeu très très sexy.
D'accord.
Et ça a vraiment payé, ça a vraiment payé
lui,
notamment dans le group stage, notamment contre le joueur kazakh Pili Pili. Alors il y avait un joueur kazakh.
Non mais attends, mais même sur CS on a des kazakhs qui sont en train de devenir trop forts.
Ouais, et
c'est marrant. Son pseudo c'est kazakh Pili Pili ou c'est Pili Pili?
Ah non, c'est Pili Pili. C'est un joueur kazakh.
Ouais, ça serait
génial.
Kazakh Pili Pili. Non, mais c'est pas un méchant dans Dragon Ball Pili Pili?
Ah ça j'en sais.
Ou c'est ce que dit Babidi?
C'est pas ma génération. Et du coup, ouais, il a aussi créé la surprise Pili Pili, mais avec un jeu assez cheesy où genre il reste sur ses positions et il te sort. C'est le Skytos, quoi. C'est genre le Protoss qui t'envoie plein de vaisseaux énormes. Et contre Nercio, ça n'a pas passé parce que la stratégie de Nercio de laisser durer la game, c'est très profitable à des Protoss qui font ce genre de stratégie.
Ouais.
Alors que
ça a marché contre Nercio.
Ça a marché.
T'as dit ça a pas marché contre Nercio.
Alors Nercio, du coup, sa strat n'a pas marché.
Ah, la strat de Nercio n'a pas marché.
Alors que celle de
Serral, pour le
coup. Alors que celle de Serral, c'est le Zerg qui attend pas, qui se laisse pas marcher sur les pieds et qui du coup a bien mis sa pilule à Pili Pili et qui a
il a
même vaincu Zest, il me semble.
Pas mal.
D'accord.
Et du coup, il est sorti premier de pôle.
Il lui a mis une pilipilule.
Alors après, ça ne l'a pas empêché de se faire mettre 3-0 par le coréen Dark. Et Nercio, il s'est fait mettre 3-0 par Stats.
C'est dur.
Tu peux me rappeler les Stats, s'il te plaît ?
Alors, les Stats. Alors, Stats, pour le coup, c'est vraiment le joueur qui a vraiment explosé tout le monde.
C'est lui qui a gagné ?
Alors, non, il s'est incliné face à TY en finale.
Ok.
Qui est un autre donc joueur terrain coréen. Lui, il est proto, ce stat. Okay. Mais alors, pour info, il a mis 3-0 à Nercio. Il a mis 3-1 à Byun, qui est l'ancien champion du monde. Mmh. Il a mis 3-1 à Dark, qui est le meilleur zerg coréen. Et il s'est finalement incliné contre TY en BO7.
Contre un Terran. Donc les Terran sont meilleurs que les protos.
Terran coréens sont meilleurs que tout, de toute façon. Mais donc voilà, finalement, stats, donc c'était une compète vraiment super intéressante pour revenir plus concrètement à la compète, parce que c'était intéressant d'avoir aucun français finalement. Parce que finalement, tu regardes la compète de manière complètement détachée.
Ouais, libérée. Ouais.
Tu peux avoir tes petits préférés un peu partout, t'as pas forcément de tristesse finalement, passer les phases
triste avant début du tournoi,
voilà, c'est ça, et après tu kiffes, voilà, t'as plus de stress, et c'était plutôt cool parce que du coup on avait vraiment du gros casting coréen qui faisait vraiment plaisir. et les foreigners ont quand même fait des belles perfs, notamment Serral, qui est un joueur que j'aime beaucoup personnellement.
Ouais.
Et finalement Stats du coup n'a pas gagné les IEM, dommage. Mais il s'est bien vengé en gagnant la GSL du coup fin mars.
Nice. Contre eux ?
Contre Sou. Ouais. Un joueur qu'on n'attendait pas forcément d'ailleurs à la.
Il a connu.
Oui, alors il y a 1000 jeux de mots à faire sur Sou. Et qu'on n'attendait pas forcément en finale de la GSL.
Est-ce que Pili Pili était là ?
En GSL, non, pas du tout. Et du coup, Thomas, tu voulais nous faire un petit point sur ce qui s'est passé du côté de LoL ?
Oui. Bah écoute, nous, c'était les premiers matchs en fait. LoL, c'était.
Encore du travail.
C'était.
Comment interrompre Thomas ?
Tu me lances. Voilà, ça se passait donc nous fin février. C'était vraiment.
Ouais, c'était juste avant.
Voilà, c'était le tout début. Nous, on n'a plus de spectacle après. Il restait que du vieux CS et du vieux
StarCraft.
Voilà. Mais nous, au moins, on avait les meilleures équipes du monde.
Mais donc, c'était intéressant parce qu'il y avait G2 qui jouait notamment. Donc, les best Europeans.
Ouais.
Et ça, c'était quand même cool. Il y avait H2K qui évolue aussi en Europe, même si la team est américaine en termes de owning. Et c'était des BO1, nous, c'était un match très rapide. Enfin, c'était des
oui, c'était une phase de pool rapide.
Assez rapide, ouais, voilà, exactement. Ouais. Et sans grand étonnement, alors, il y a eu une ou deux belles surprises. La belle surprise, c'est G2 qui est. Bon, la belle surprise, c'est quand même G2 qui a réussi à tenir tête à peu près à Flash Wolves, qui sont une putain de team. Alors, Flash Wolves avait été invité, à savoir que donc les IEM, nous, c'est genre. Ils invitent certains gagnants des Worlds, certains qui ont participé, qui ont atteint au moins les quarts des Worlds sur League of Legends.
D'accord.
Et ensuite, c'était pas plus d'une équipe par continent, et vu qu'il y avait qu'un total de 8 teams, si je dis pas de conneries, qui étaient sur les IEM, c'était très faible. C'était pas plus d'une par continent, évidemment, donc Europe, Amérique. Et vu qu'il n'y avait pas de team pour la LM, donc la fameuse ligue dont je parlais tout à l'heure, qui est plus Taïwan et tous ces pays d'Asie du Sud-Est, ils ont invité Flash Wolves, qui sont les meilleurs incontestés depuis des années.
D'accord.
Ils sont des gros wildcards. Et c'est eux donc qui ont remporté, fin du suspense, c'est eux qui ont remporté les IEM.
Il y a le suspense, putain, on n'en pouvait plus.
G2 est arrivé deuxième. Et les Rocks Tigers, qui sont une grosse team coréenne, qui était aux Worlds, qui étaient les finalistes contre les Coréens l'année dernière.
Ouais.
C'était Rox contre SKT. Là, sont arrivés en fait que 3e. Oh. Et H2K 4e. Voilà, donc deux teams euros et une team coréenne et les gagnants qui sont une team de LMS, qui sont une wildcard. Mais très intéressant. Donc la belle surprise, c'est quand même que G2 arrive devant les Rox Tigers.
Ouais, clairement.
Qui étaient quand même les vice-champions du monde.
Ils ont joué qui en demi-finale ? Ils ont joué Rox Tigers ou H2K ?
Alors G2. Je sais plus comment ça s'était passé. Je crois que c'était. Ouais, Rox, G2 et c'est eux qui ont battu Rox. Ouais.
Ah, donc G2 a sorti les Coréens. Donc oui, c'est vraiment une belle surprise.
Je voulais parler il y a 5 minutes, mais que j'ai pas réussi à. Voilà, mais donc non, mais intéressant. Donc c'était des IEM qui sont passés vite parce que nous, ça durait que 5 jours, si je dis pas de conneries.
Ouais.
C'était les premiers terminés. Mais. Bon, pour un événement international, de voir des Européens, donc nos meilleurs, notre fer de lance, si je puis dire, arriver à se positionner second et à sortir surtout l'ancien vice-champion du monde. Et cette année, ils sont plutôt en milieu de tableau en Corée. Ils sont quand même au-dessus des MVP et des Barbecue Olivers. Mais BBQ Olivers, quand même comme nom de team. Voilà, mais donc c'était intéressant en tout cas pour... ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. On peut avoir quand même un peu d'espoir parce qu'en Europe, Il y a G2 qui surperforme de l'espoir, vraiment. Monsieur Frodon. Mais les Américains, par exemple, eux, voilà, il y a un peu no hopes for them pour les Worlds. Alors, ouais. Ce que va donner le Summer Split, si au Summer Split il y a des changements intéressants, il se peut qu'on soit un peu plus compétitif, mais à part G2, je vois aucune team qui pourrait arriver en quart de finale des Worlds cette année, quoi.
D'accord.
Parce que t'auras justement des Chinois, t'auras des Wildcards à la Flash Wolves, ouais. Et t'auras les 2-3 slots de Corée habituels. Donc, ce serait intéressant, tu vois, qu'on ait la chance, comme toi tu le disais sur les IEM, là, de
ces IEM-là. Ouais, qu'il y ait des surprises.
Que voilà, t'es un format de ronde qui soit assez intéressant pour pouvoir permettre des sorties des quarts et des poules hyper intéressantes pour des teams un peu plus de seconde catégorie. Bah, c'est un peu d'ailleurs c'est ce qui sauve un peu les Américains tous les ans, d'ailleurs. Hein, c'est que heureusement qu'il y a 2 slots qui leur sont attribués et puis qu'il y a la LMS et qu'il y a des ligues un peu secondaires qui leur permettent d'arriver en quart, parce que sinon malheureusement jamais on aurait vu des TSM ou des CLG arriver en demi-finale, quoi.
Ouais.
Voilà, mais donc des IEM intéressants,
ouais,
et puis GG à G2 qui surperforment en fait partout, on peut le dire, hein, entre
clairement, ouais, non, ils sont je voyais Ocelot qui publie un truc récemment, mais sur LoL ils sont très bien, sur CSGO ils sont extrêmement bien. Je crois qu'ils sont aussi sur Rocket League, où apparemment ils ont des joueurs qui...
Tout à fait, ils ont annoncé la création d'un roster.
Alors ça a l'air de bien marcher aussi.
Ça marche plus de dur, Rocket League. Hein.
Mais Rocket League, en même temps, c'est hyper fun à regarder. Ouais, quoi. C'est hyper technique aussi.
C'est super dur à jouer, putain. Ouais, c'est...
Je déteste ce jeu, moi je sais
pas.
Je comprends pas du tout l'engouement, mais voilà.
Tu verras, ça dépasse pas
Overwatch. C'est cool, mais après, faut maîtriser.
C'est hyper technique. C'est
du vol, jamais
réussi de la
facilité par rapport à Overwatch, c'est que c'est très facile à regarder, en fait.
Ouais, voilà,
très,
oui,
très
bien
facile.
Sûr. Ouais,
et c'est un facteur qui peut vraiment faire passer Rocket League devant Overwatch en termes de vue, quoi. Parce que, en dehors de, même si c'est très spectaculaire, Overwatch également aussi, c'est si tu maîtrises, tu connais pas le jeu, tu peux pas comprendre. Alors,
t'expliques ça à un mec, tu lui dis, ouais, c'est du foot avec des bagnoles. Le mec, il va tout de suite aller jouer.
C'est super marrant,
c'est clair. C'est pour ça que Blizzard met beaucoup d'argent là-dedans pour pouvoir contrecarrer ça, mais c'est difficile. Leur jeu est basé sur ça.
Rocket League, ouais, c'est un peu la surprise que personne ne voyait trop arriver.
Comment ça se passe au niveau des tournois pour Rocket League?
Je sais que le SL en fait.
Oui, le SL, mais à part le SL,
quand les
ils ont créé la Rocket League.
Il y a une ligue qui est pas créée par ESL, je crois, mais
la Rocket League. Tout, moi, je suis
non, mais c'est RLCS, je crois, une connerie.
La Rocket League,
je sais pas.
La Rocket
c'est Rocket League Championship Series, une connerie comme ça, je crois.
D'accord.
Mais du coup, il y a des joueurs, il y a une vraie communauté qui se crée, donc c'est pas mal.
Et donc, du coup, par rapport aux IEM, je voulais vous dire que je déconne.
Ouais, on a fait vraiment une très belle glissade des IEM jusqu'à Rocket League.
Ça sera un très bon sujet de débat.
Ça a été magnifique.
Jean-Claude Van Damme serait fier de ce grand
écart. Ouais, de ce grand écart. Mais du coup, on est plutôt satisfait de ce tournoi. Enfin, toi.
Clairement. Moi,
Pierre,
je suis hyper satisfait.
Moi aussi, je suis hyper satisfait.
Ouais, toi, Théo.
C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de vous en parler plus pendant la chronique. Du coup, j'en profite et je prends la parole. Mais je vous disais qu'il y allait y avoir énormément de tournois. Là en avril, on a des finales Star Ladder, on a une DreamHack, on a peut-être même 2 DreamHack. Il y a un truc qui s'appelle le CS Summit qui est organisé aux États-Unis. C'est des mecs qui font du Dota et pour la première fois ils se lancent sur Counter Strike. Ça va être hyper intéressant à regarder, je pense.
Ouais.
C'est un truc en mode chill où ils sont tous
dans
une énorme baraque.
C'est pas le groupe qui organise le Summit justement. C'est un peu comme TI, The Invitational.
T'as dit quoi, pardon?
Le Summit là qui va être organisé, c'est pas par Valve justement?
Non, pas du tout.
D'accord, bon, autant pour moi.
C'est tout pour moi. Salut.
Non,
c'est un tournoi beaucoup plus petit, mais ils sont tous dans une grande baraque aux États-Unis en fait, et les casters ils sont sur un couch. Enfin, c'est trop marrant, quoi.
Il y a les ECS non plus.
Si, il y a les ECS qui commencent. Il va y avoir les finales de la Pro League en juin.
Tout ça qui continue en plus de la SL Pro League, je crois.
Ah oui, alors si, voilà, c'est ça que je voulais vous. Oui, il y a la Pro League, mais aussi la grosse nouvelle, c'est qu'il y a une étape DreamHack en France à Tours.
Oui.
Ça, vous le savez.
Oui.
Mais autant les autres années, c'était un truc un peu mineur. Autant cette année, on a G2, Envy, Navi, Heroic.
À la DreamHack Tours.
À la DreamHack Tours.
Ah ouais.
Je crois.
Et si, les deux autres ont été annoncés, mais je sais plus qui c'est. En tout cas, il y a G2 Envy qui sont du coup les deux top teams françaises, ça va être trop cool. Navi, c'est top 3 monde. Heroic, c'est top 10-15 monde, mais du coup, je suis hyper content de les avoir.
Mm. C'est quand déjà?
C'est début mai.
C'est marrant parce que il y a quelques épisodes, tu regrettais que la France n'ait pas vraiment de grandes étapes CSGO. Et...
On va pas se mentir, c'est un tournoi qui existait déjà il y a 2-3 ans. Ça fait longtemps que la DreamHack Tour, ça fait depuis 2014, je crois qu'elle existe, la DreamHack Tour. Le truc, c'est que c'était un tournoi qui était, en termes de cash, pas plus gros, pas plus petit que les autres, mais en termes de calendrier, ça tombait tellement mal à chaque fois qu'on avait toujours droit aux petites équipes européennes, quoi.
Ouais.
Là, on a G2, Envios, Navi.
Ouais,
c'est trois équipes potentiellement du top 10, quoi, mondial. C'est hyper cool.
Tu y seras à la DH Tour ?
Oui.
Moi aussi, ah, normalement. Cool. On doit y être aussi.
Ah, très cool. Bah, très bien, on aura des agences sur
Live Report.
Ok. C'est ça.
I'm interviewing you for Battleground.
Un double live tweet avec.
Ici, la situation est en train de dégénérer, puisqu'un joueur a dit GL, HF, LOL, NDR.
Ça, c'est sur StarCraft.
C'est ça.
Bon, bref. Bah, très bien. Bah, j'espère que vous aurez de belles infos à nous ramener de cet event. C'est quand, du coup ?
Début mai,
d'accord.
C'est le week-end de 3 jours, là. Okay, je crois que c'est 4, 5, 6, un truc comme ça.
Oui. Ok, bah, fort bien. Bah, on vous en reparlera en temps voulu. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. Bah, merci, Defuck Mathieu.
Qu'est-ce que j'ai participé alors donc
Oui, désolé Théo pour le débat de ce mois-ci. Mais ça a été préparé
un peu. Ça manquait de versus fighting.
Non.
Le versus fighting. Non.
C'est vrai que c'était un peu CSGO Battleground.
Ouais, ouais, comme souvent.
Mais c'est Pierrot.
C'est des jeux intéressants, c'est pas de sa faute.
Ouh,
tu seras plus invité.
Non, mais du coup, ouais, merci Mathieu. J'espère que t'étais content de passer dans l'émission, que t'as passé un bon moment.
Très content, merci de m'avoir invité.
Et de rien. Enfin, invité par Thomas, qui t'a ramené dans
sa vie. Il m'a incrusté,
oui, parce qu'il nous a dit j'arrive avec une surprise, on a tous pensé à de la bouffe, et en fait, pas du tout.
Il a ramené un pote.
Choqué, déçu, mais voilà. Donc c'était sympa. Merci à vous.
Bah, merci à toi. Messieurs, un dernier mot ?
Chaussettes.
Eh bien, on se retrouve dans un mois.
C'est ça, c'est Thomas, des vrais derniers mots.
Si, merci Way of Life pour le studio.
Oui, les remerciements à chaque fois. Oh, suis-je bête ? Bête.
Bon, on remercie Way of Life de nous avoir prêté le studio qui nous permet d'enregistrer ce son magnifique qui vous parvient dans vos oreilles. On se retrouve le mois prochain pour parler d'e-sports. En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver bien sûr sur Twitter @BattleGPodcast, sur Facebook, sur iTunes. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher des pouces verts. Je sais même pas sur iTunes comment c'est des étoiles, je crois. Mettez 5 étoiles.
N'hésitez pas à acheter les épisodes.
À acheter les épisodes premium, bien sûr.
Comme ça, on pourra se payer à bouffer.
Comme ça, on pourra se payer à bouffer plutôt que de ramener des potes. On vous fait plein de bisous, on vous retrouve le mois prochain. En attendant, jouez bien, GL HF.
C'est un jeu vachement bien.
Et est-ce qu'il jouait à StarCraft Brood War, ton père ?
Il jouait pas à StarCraft Brood War, mais je sens que tu as très envie de nous parler de StarCraft Brood War.
Ah oui, parce que là, ça a été le début de la... Théo, tu me fais...
Faut que j'en tire mon pull, donc...
D'accord, bah merci d'interrompre l'émission pour cette information super importante. Du coup, je vais refaire mon intro.
Désolé, mais j'ai... Bah, mais tu pouvais le faire sans nous dire.
Un petit bisou, bisou.
Bisou, bisou, bisou.
Oh mon Dieu.
Nice, c'était express.